Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Studio ZEF. Vous êtes dans Du vent dans les pages, numéro 9. Et c'est la dernière émission, ouais, la dernière de l'année, snuff. Pour l'heure, autour du plateau, nous avons Anne, Catherine et François, invités exceptionnels de cette émission.
La vedette.
Bonjour à vous trois et bienvenue.
Bonjour.
Voilà, et ben François, tu vas commencer. Par tes coups de cœur que tu as fait, un petit peu à l'arrache, comme ça, comme on dit, hein, trivialement, mais bien fait quand même. On te fait confiance.
Alors, je vais commencer par vous parler du portrait d'homme en bleu de Philippe Machicotte aux éditions Éric Bonnier. Alors, c'est un livre qui fait partie de la présélection du roman historique.
Alors, la présélection du roman historique. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus?
Oui.
Parce que tout le monde ne connaît pas, en fait.
Oui,
hein,
donc, au moment des rendez-vous de l'histoire, il va être remis un prix du roman historique. Mais avant, il faut choisir les livres qui seront présentés au jury, parce qu'il y en a, je ne sais pas combien, autour d'une centaine. Et il va en falloir 6, 7, 8 à la fin. Donc, chaque livre est lu par deux personnes différentes qui donnent leur avis. Et bon, si les deux livres sont jugés très bons, il y a des chances pour qu'il aille directement en finale. Sinon, ou il est éliminé, ou s'il y a un doute, il y a une personne qui le trouve très bon et l'autre moyenne, bon, on relit et puis on affine. Tout ça pour ne garder que le nombre de livres nécessaires à la fin.
D'accord.
Voilà.
Donc là, en ce moment, vous êtes en présélection, c'est ça ?
On est en présélection, oui.
Alors, je précise
oui,
que
Anne.
Sur les 10 qui vont servir pour la dernière ligne droite, il y en a 5 en particulier qui seront choisis pour le prix coup de cœur offert par la banque CIC depuis toujours.
D'accord, très bien. Ça existe depuis longtemps, hein. Tu disais que ça existe
depuis le début, presque le début. Ça a dû être créé la deuxième année, où ça a été très rapide.
Oui, ça a été rapide. Ah, hein.
Oui, ils ont vu là une occasion de se faire une pub d'enfer.
C'est de la folie.
On t'écoute, François.
Alors, l'homme en bleu. En fait, l'homme en bleu s'appelle de son vrai nom, son vrai prénom, Basile, parce que c'est un enfant abandonné. Donc, d'abord, on l'a mis en nourrice chez des domestiques d'un château, les Roubinet, qui l'élèvent avec amour jusqu'à ses premières années, jusqu'à 7-8 ans. Ensuite, les propriétaires du château, les Rousses, l'accueillent à leur tour et l'emmènent à Paris dans leurs appartements parisiens. Donc là, on lui trouve un précepteur, l'abbé Chupin, qui en fait quelqu'un de cultivé, qui l'initie à l'art, à l'architecture. Et il se trouve que cet abbé Chupin et les Rousses font partie du proche entourage de Richelieu. Donc, au cours de ses études, à un moment, Basile rencontre Richelieu, qu'il voyait de temps en temps, mais cette fois-là, Richelieu lui demande d'apprendre à écrire exactement comme lui, avec les fautes d'orthographe en moins. Parce que, bon, il faisait beaucoup de fautes d'orthographe.
Les grands n'étaient pas élevés.
Non, pas toujours. Donc voilà, c'est tout naturellement qu'il a appris à connaître Richelieu, à faire des échanges épistolaires avec lui. Et petit à petit, il est devenu le secrétaire de Richelieu. En écrivant comme lui, ce qui était bien facile, ça évitait à Richelieu de montrer ses fautes d'orthographe.
Il n'avait plus qu'à signer.
Il faut préciser que ce n'est pas le cardinal. Hein.
Oui, c'est pas le cardinal.
C'est le neveu.
C'est le maréchal.
Voilà, aristocrate, mais pas forcément tellement bien éduqué.
Bon, en fait, tout ça se passe dans un milieu. Le maréchal était un libertin, très connu pour ça. Et ben, son protégé continue sur la même lancée. À la fin de sa puberté, il rencontre une jeune fille de la maison de Richelieu, une jeune servante. Et il est attiré par cette jeune fille et il lui crie un billet où il lui donne rendez-vous le soir. Et le soir, évidemment, il ne voit pas la jeune fille arriver. Mais le lendemain, Richelieu lui dit c'était gentil de ta part.
Ah, oh, le sale cadeau.
Parce que, évidemment, il avait écrit avec...
Avec les ouais, d'accord.
Avec l'écriture habituelle. Donc tout ça, ça commence comme ça, quoi. Ensuite, il rencontre, bon, je passe sur bien des pérégrinations, il rencontre Victor qui lui apprend à, qu'il a rencontré un moment où il apprend à faire de l'équitation parce que bon, il voulait aller plus vite de Paris à Bordeaux, le carrosse, ça commençait à bien faire. Et ce Victor, eh ben, il finit par en tomber amoureux. Donc, il était homosexuel, voilà. Mais au bout d'un moment, ça fait jaser. Donc, Richelieu, qui est au courant de tout, le prend à part et lui dit « Mon petit gars, maintenant, faut que tu te maries parce que, bon... »
Pour les apparences.
Pour les apparences. Donc, il se marie avec Émilie. Émilie, qui est une amante de Richelieu, mais aussi, probablement, sa fille.
Ouf. Voilà. La vache, c'est simple.
Donc, Richelieu passe un contrat. Il dit, bon, d'accord, tu fais un mariage blanc, mais attention, pas touche. Donc,
Remarque, bon, ça l'arrange, en même temps.
En même temps, ça l'arrange. Ouais. Jusqu'à... Pendant un certain temps, ça l'arrange. Et notre ami ensuite, eh bien, son ami Victor est pareil, sujet à critique. Donc, se sent obligé de se marier avec une certaine Clémence. Sauf qu'au bout d'un moment, nos deux amants plus l'amante forment un couple à trois qui marche fort bien.
Et ça fait du bruit.
Et la jeune femme a quatre enfants qui sont de Basile et pas de Victor, parce que Victor, lui, ne voulait pas toucher à sa femme. Et voilà, donc, on voit, et tout ça, su par Richelieu, et... Donc voilà, ça, c'est pour le côté le plus anecdotique de l'affaire. Bon, sachant que, aussi, Basile, comme il a fait un mariage blanc, il ne voit pas sa femme, donc il vit seul, donc ça fait jaser aussi. Donc pour ça, il prend une pseudo-amante, parce qu'il faut qu'il se montre en public avec une femme. Pseudo-amante qui elle-même est homosexuelle et vit avec une fille. Et tout ce monde-là vit dans la même maison. Donc ceci dit, après Basile et Victor était le fils d'un commerçant. Donc il monte une société de négoce qui permet de faire des importations par le port de Bordeaux. Hein, donc ça... Et Basile est toujours représentant de Richelieu sur Bordeaux. Il développe toute la politique de Richelieu sur sa région, y compris le rapport avec les Basques. À un moment, il essaie de développer la flibusterie parce qu'il y a toujours les Anglais qui nous embêtent. Voilà, et bon... Richelieu décide de construire un théâtre à Bordeaux, comme architecte Monsieur Louis.
Mm-hmm. Exactement.
Richelieu veut quelque chose de magnifique qui coûte très cher et il l'impose aux édiles locales qui, elles, veulent bien un théâtre mais veulent pas dépenser des sommes aussi importantes que Richelieu le désire. Donc il va lutter, il va imposer le théâtre. Jusqu'à ce que Louis XV meure. Louis XVI arrive, sauf que Richelieu n'est plus en odeur de sainteté. Donc pendant quelques années, le chantier est arrêté. Richelieu revient auprès du roi et le chantier redémarre jusqu'à la Révolution, où le chantier était quasiment fini. Et là, évidemment, suite à la Révolution et aux haines qu'il s'était attirées, eh bien, il se fait raccourcir.
Ouais. Sacrée histoire. Hein.
Sacrée histoire, oui.
Et en plus, il y a plein de visions, de plans, en fait.
Voilà, c'est c'est le...
Petite trame, quoi.
Ça, c'est la trame du livre, mais le plus intéressant... Enfin, justement, ça reste un roman, justement, où il y a beaucoup de choses, et c'est intéressant pour ça. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est toute l'approche de l'art de l'époque, de la corruption, de tout ce qu'on veut.
Ah bon, déjà ?
Déjà ? Oh oui, déjà. Ah. Oh. Déjà, déjà.
La candeur de Catherine.
Mais... Oh, c'est incroyable.
Donc, on nous parle des grands architectes de l'époque, des peintres aussi. De
Fernand Mick également.
Voilà, des difficultés à les recruter, à faire avancer les choses. Et c'est vraiment... un roman passionnant pour moi.
Mais oui, mais à recommander chaudement, si
à
j'ose dire.
À recommander chaudement, oui, oui.
Tu peux rappeler le titre ?
Alors, c'est « Portrait d'homme en habit bleu » de Philippe Machicotte aux éditions Éric Bonnier.
Merci François, on revient vers toi tout à l'heure pour ton deuxième choix. Mais en attendant, je ne sais pas, Anne, allez.
Bon, on a trois. Allez, alors je me lance.
Allez, lance-toi.
Bon, alors moi, je ne suis pas au XVIIIe siècle, hein. Je suis au Moyen-Âge. Et je vais vous parler d'un livre qui est sorti il y a bien longtemps, écrit par Jeanne Bourin, qui s'appelle « Le Grand Feu ». Alors, pourquoi je vous parle du Grand Feu ? C'est parce que, d'abord, c'est un roman d'amour magnifique et qui se passe à Blois, ou du moins à côté de Blois, sur la butte de Fretval. Mais j'ai trouvé amusant de vous décrire l'entrée des jeunes gens juste après leur mariage, à Blois. Alors quand même, j'ai campé les deux personnages. La jeune femme s'appelle Isambourg. Elle est brodeuse au service de la comtesse Adèle. La comtesse Adèle, c'est la fille de Guillaume le Conquérant, qui a épousé le comte de Blois, le comte Étienne de Blois. Et le mari s'appelle Berthold. Il a 10 ans de plus que sa femme. Et il est charpentier. Et il appartient au comte de Fretval. Donc c'est pour ça qu'ils vont s'installer à Fretval. Et c'est là qu'ils vont passer toute leur vie, jusqu'au moment où ils ont un fils aîné, qui est lui aussi est charpentier, qui reprend travaille dans l'atelier de son père, qui se marie. Et le père tombe amoureux fou, mais alors un amour étonnant, de sa belle-fille. Et ils s'enfuient tous les deux. Et bien entendu, à l'époque, quand on faisait ce genre de choses, non seulement on avait toutes les troupes du roi aux trousses, mais en plus, la punition était terrible. Donc la punition de Berthold, c'est un pied coupé. Et la jeune femme s'est pendue. Donc il revient chez sa femme. Et en fait, c'est... C'est en même temps la tendresse d'Isambourg qui remet les choses d'aplomb. Alors, que je vous lise l'entrée à Blois. Après avoir franchi le large fossé défendu par les très hautes palissades qui cernaient la ville, isolée face au fleuve sur son éperon rocheux, Berthold et Isambourg pénétrèrent dans Blois par la porte chartraine. L'agitation commença aussitôt. Bien situé au confluent de la Loire et d'une petite rivière appelée la Roue, ce qui facilitait les échanges, aisément défendu par son escarpement naturel, la cité des comtes de Blois-Chartres, qui regroupait trois bourgs jadis distinctes, était prospère. Lors de leur premier séjour dans la capitale du comté, Gervais avait longuement expliqué à sa fille et à sa nièce comment des professions issues du château, aussi bien que de l'abbaye voisine, avaient peu à peu exercé leurs activités hors des murs castraux. Comment certains artisans, qui avaient commencé par travailler pour le seigneur comte ou pour l'abbé, avaient fini par essaimer vers d'autres pratiques. Parce que de nombreux étrangers, séduits par les agréments de notre région, se sont fixés ici. Et aussi à cause du grand nombre d'enfants nés depuis une ou deux générations. Le nombre de clients possibles s'est beaucoup accru, dit encore le Vavasseur. Plus nombreuse, la population a eu besoin de davantage de fournisseurs. À présent, on trouve à Blois, comme à Chartres ou à Tours, toutes sortes de marchands. Nous avons des tanneurs, des foulons, des drapiers, aussi bien que des selliers, des cordonniers, des savetiers, sans compter les forgerons, les ferronniers, les armuriers et même des orfèvres. Pour loger tous ces gens, on a été amené à construire. Les maçons, couvreurs, serruriers ont trouvé à s'employer. Enfin, il a fallu nourrir tout ce monde. Bouchers, boulangers, poissonniers, etc. ont été nécessaires. Notre comte a même fait venir des monétaires puisqu'il bat monnaie comme tout seigneur qui se respecte. Ça donne une petite idée de ce qu'était Blois et de l'évolution rapide. Voilà, alors ce livre, moi j'ai beaucoup aimé. J'avoue que je l'avais lu quand il est sorti, je l'avais totalement oublié. Et je l'ai trouvé sur les rayons de la bibliothèque. On trouve tout sur les rayons de la bibliothèque. Et je me suis dit que vous aimeriez vous replonger dans cette atmosphère. Ce sont des personnages délicieux. Isambourg est une jeune femme charmante. La comtesse Adèle cherche absolument à avoir un atelier de brodeuse important parce que la comtesse Mathilde a fait une broderie pour Guillaume le Conquérant, donc elle veut faire la même chose à Blois. Donc il y a cette rivalité des nobles qui fait que les artisans ont du travail. Et le comte Étienne est parti guerroyer en Palestine. Là aussi, nous avons tout un paragraphe, tout un chapitre sur la croisade, les croisés, le départ, Urbain II, enfin bon. Donc c'est à la fois des personnages, des artisans de notre région et en même temps toute une époque qui est mise en valeur et la butte de Frédéval. Je crois qu'un jour ou l'autre, je vais aller voir ce qu'il en reste. Pas grand-chose, mais il y a eu deux forteresses, l'une et l'autre brûlées, etc. Voilà, alors moi je l'ai pris sur ma liseuse, mais on le trouve dans le livre de poche.
Tu rappelles le titre ?
Le Grand Feu.
Le Grand Feu.
De Jeanne Bourin.
Voilà. Merci beaucoup, Anne. On embraye tout de suite, sans transition.
Histoire, toujours l'histoire.
Catherine.
Alors, pour moi aussi, ce n'est pas un roman tout récent. Le roman dont je vais parler a été publié en 2008. C'est un roman historique, mais c'est aussi un roman d'aventure et c'est aussi un roman un peu fantastique. Alors, c'est quoi ? C'est d'abord « Le roi transparent » de Rosa Montero aux éditions Métayer. En fait, c'est l'histoire d'une jeune paysanne, donc on est en plein XIIe siècle, enfin tout début, fin XIe, début XIIe, qui mène une vie simple, laborieuse, entre son père, son frère et son promis. Donc jusque-là, tout va à peu près bien, sauf qu'évidemment la guerre fait éruption dans leur quotidien et elle est obligée de quitter ses habitudes et se débrouiller par elle-même. Son promis est embarqué pour aller faire la guerre. Il est enrôlé, il brûle tout pour que l'ennemi n'ait rien, donc il perd tout. Donc elle part sur les routes, mais alors une jeune fille, parce qu'elle est toute jeune sur les routes. Donc pour échapper au viol et à la mort, cette jeune Léola revêt l'armure d'un chevalier qui a été tué. Elle ne l'a pas tué, elle a juste ramassé, déshabillé un mort. Et elle va donc dorénavant devoir vivre comme un homme et apprendre à se battre. Alors je vais vous lire un petit extrait. Donc là, elle a déjà... Elle essaie de fuir, mais elle rencontre des masses d'hommes, soldats ou autres. Donc le danger est partout. Et là, elle est arrêtée par plusieurs personnes. « Tiens, tiens, notre petit chevalier, si jeune, il a déjà gagné ses éperons. Ou bien les aurais-tu volés à quelqu'un ?» Le moine sourit en même temps qu'il parle. « Les soldats se sont déployés autour de moi. Je suis au centre d'un triangle formé par ces trois hommes. Ils ont tous sorti leurs armes. » Je dégaine mon épée, mais elle est si lourde que je suis incapable de la maintenir dressée. Sa pointe retombe vers le sol et tremble dans l'air. Je saisis sa poignée des deux mains. Puisque je ne sais pas la manier, je m'en servirai au moins comme d'une pique. Pour sûr que tu l'as volée, mais regardez-moi comme il tient son épée. T'es rien qu'un rustre, un maudit plébéien. Un nouvel éclair, un grondement de tonnerre, je tourne sur moi-même, l'épée entre mes mains pour ne rien perdre des hommes qui m'entourent, mais je sais que je suis morte. La certitude de ma fin dévore mes forces et me remplit d'une peur froide qui garrotte mon corps. Je flanche et je sens la tentation de me rendre, d'offrir mon cou aux assassins et que tout finisse au plus vite. Cependant, quelque chose me fait serrer de nouveau l'épée et rester sur mes gardes. Je suis aiguillonnée par le rêve fou de pouvoir revoir le soleil demain. Tout en disant cela, le moine fit mine d'avancer et je le menace de mon épée et l'homme éclate de rire. « T'es pas de taille contre nous. »« Lui, peut-être pas, mais moi, oui. » La voix résonnait basse et grave, étrangement calme et dangereuse. Un guerrier tout en armes et monté sur un destrier se tient à côté de nous. La lumière fantasmagorique des éclairs agrandit sa silhouette et fait fulgurer son épée nue. « Qui es-tu ? Que veux-tu ? » balbutie le moine effrayé. « Je veux que vous partiez, » répond le chevalier. Il éperonne son cheval et se lance sur eux. Donc elle est sauvée de justesse par ce chevalier, qui est un vieux chevalier. Donc un tout petit peu plus loin. « Merci Seigneur, vous m'avez sauvé la vie, » dis-je en essayant de prendre une voix grave et qu'on ne remarque pas ma peur ni mon désarroi de pucelle. « Pourquoi n'ôtes-tu pas ton aume ? Je suis bien avec. » Le guerrier m'observe attentivement de ses yeux aqueux. « Comment t'appelles-tu ? » « Raymond. » « C'est pas vrai. Comment t'appelles-tu ? » « Léo. » « Léolo. » « Pourquoi as-tu volé cette armure, Léolo ? » Je décide de confesser la vérité, ou presque. « Pour me protéger, as-tu tué quelqu'un pour la prendre ? » ?»« Non. Et pourquoi voulais-tu te protéger ?» Je me tais, j'ai une terrible envie de pleurer. Je retire ton casque. Je le retire, le vieux guerrier se penche vers moi et m'enlève mon camail. Puis il prend un coin de mon surcot mouillé et nettoie mon visage. Il me regarde d'un air intrigué. Il tend sa main tachée par l'âge, la met sous l'étoffe héraldique et palpe mes seins à travers les mailles de fer. Mais t'es une femme, une gamine. Le seigneur d'Aubenac a emmené mon père et mon frère, il a emmené mon Jacques, je suis seule au monde, j'ai pris cette armure à un chevalier mort. Le guerrier soupire et tisonne le feu à l'aide d'une brindille. Nous vivons une sale époque, mais crois-moi si je te dis qu'il en a toujours été ainsi. La vie est une sale époque qui n'en finit jamais. Sais-tu que si on te prend habillé en homme, tu pourrais finir au bûcher ? Je dis oui de la tête, même si je ne savais pas. Bon, après tout, c'est pas si grave. Hein. T'es pas la première à te déguiser en homme. Et que comptes-tu faire ? Je vais aller chercher mon Jacques. Voilà, donc vous êtes un peu dans l'atmosphère du roman, de cette jeune fille qui part un peu à l'aventure. Alors, à partir de là, débutent ses apprentissages, ses rencontres, ses voyages. Alors, elle va vivre des tournois, les guerres entre les croisés, les cathares, la vie à la cour d'Aliénor d'Aquitaine. Vraiment, elle va même jusque dans le pays de Merlin l'Enchanteur. Enfin, elle voyage un peu partout. Et elle est aidée, si on peut dire, puis sans oublier ses amours, les amitiés, les angoisses. Et elle a une partenaire, si je peux dire, une compagne, Ninève, la rousse, la guérisseuse, la sorcière, qui devient son guide et l'aide à grandir et à faire sa route de femme indépendante. Et donc, mais ce personnage est assez étonnant parce qu'on a l'impression qu'elle a déjà vécu des tas de choses et qu'elle continue à vivre longtemps. Donc, on a l'impression qu'elle vit
immortelle.
Oui, il y a quelque chose d'assez... c'est un Moyen-Âge à la fois réel et complètement fantasmé. Donc, c'est vraiment un roman d'aventure, un roman historique. C'est le talent de conteuse. C'est vraiment une conteuse, Rosa Montero, qui vous embarque de son histoire, qui vous embarque dans une histoire extraordinaire. Mais on a une vision d'un siècle complet et d'un siècle qui est vraiment l'ouverture du Moyen-Âge vers la Renaissance. Enfin, c'est vraiment un tableau à la fois merveilleux mais extraordinaire de cette période. Et Léola, c'est une héroïne atypique. Elle va apprendre à penser, à écrire. Elle va fréquenter la cour d'Aliénor d'Aquitaine. Elle va voir la corruption de l'Église, le fanatisme de l'Inquisition. Elle va admirer la lutte des cathares, on verra jusqu'à la fin. Découvrir les pouvoirs de l'imagination, rêver du roi Arthur, tout en évitant soigneusement la malédiction du roi transparent. Mais ça, je ne vous dis pas quelle est la malédiction du roi transparent. Ben voilà. Bon. Bref, c'est une merveilleuse biographie imaginaire, mais c'est vraiment un profond message de compassion et de tolérance. Elle a écrit une post-faste, Rosa Montero, et elle montre bien cette première renaissance du XIIe siècle, faite de liberté, d'ouverture et de raffinement. Donc si j'ai le temps, je vais vous lire ce petit passage.
Ah oui,
donc,
oui.
Ça va être vers la fin de ce personnage. Alors là, je ne vous lis pas le post-faste, mais vers la fin. Donc c'est Léola qui parle. « Je suis femme et j'écris. Je suis plébéienne et je sais lire. Je suis née serve et je suis libre. » N'est-ce pas magnifique tout ce que la vie m'a donné ? Je me sens en paix dans mes habits de femme et dans ma peau cousue de cicatrices, parce qu'elle a des blessures, enfin, des aventures. On se demande comment elle arrive à tenir le coup. Voilà ce que je suis et ce n'est pas mal. Je regarde à travers l'étroite ouverture de la meurtrière et je vois les branches de l'arbre pelé que Ninève m'a montré avant de s'en aller. À présent, son écorce desséchée et rugueuse comme une peau de lézard enfle et éclate sous la poussée tenace des nouvelles feuilles. Mon Dieu, un point de fer frappe la grande porte. Des paroles âpres nous somment de nous rendre. Les hommes de métal cliquettent à nos pieds, préparant le bélier. Soudain, un vacarme assourdissant. Les oiseaux chantent le soleil qui se lève. Bientôt, ils s'en iront. Ils fuiront les environs de la tour dès que commencera la violence et que la porte résonnera sous les coups. Mais peu importe, ils reviendront. Ce n'est que l'hiver de notre histoire. Donc c'est C'est un superbe roman. Alors, je peux dire que c'est une lecture de l'été, de vacances, oui. Parce que, bon, il est un petit peu gros, mais bon, c'est quoi ? 470 pages.
C'est le pavé de la plage ?
Oui, mais 470 pages.
Tout à fait.
J'en vois un plus gros, là.
Oui, oui.
Voilà.
Il est écrit gros.
Ah bon. Mais ça se lit. Alors, et il ne faut pas rester, il ne faut pas être trop cartésien, bien sûr. Oui. Hein, parce oui, que. Oui, et voyage à travers la France, on va dans des pays très différents, donc le pays d'Oc, puisque ça se passe pas mal dans le pays d'Oc.
Les pérégrines s'en allaient voilà. À Jérusalem à pied.
Bah, hein, oui, non, mais il n'y a pas que les kilomètres, il y a aussi les années. Donc, mais c'est passionnant. Puis quand on aime cette période, ce 12e siècle, c'est enthousiasmant. Alors, je rappelle, Rosa Montero, je ne sais pas si j'ai dit, c'était un écrivain espagnol ou une écrivaine.
On peut le dire. Bon, Anne n'aime pas. Hein.
Bref.
On peut le dire, il paraît.
C'est un écrivain femme espagnole qui a écrit évidemment de nombreux ouvrages. Donc celui-ci, c'est Le Roi Transparent et ça a été publié aux éditions Métellier. Voilà.
Eh bien, rien que cette première partie d'émission, là, déjà, on a la moitié de l'été occupée.
Pour l'été,
au moins la moitié. Avant de continuer, je vous propose une petite pause musicale. On se retrouve tout de suite après.
I know that I got bad habits. Trying to find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'll probably end it, and it's never right of malice. Gas never lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like Narsims won't flip. But when I switch, then they wanna say that I'm a bitch.
Dans les pages sur Studio Zef. Et voilà, deuxième partie de l'émission après avoir entendu Little Sims avec Offense. Alors, Anne, je crois que tu en as encore sous le coude, hein, des bouquins pour la plage.
Ah oui, puis j'ai gardé le meilleur
pour la fin.
Le meilleur à mon goût, mais enfin
oui,
bon.
Bah oui.
Voilà.
Bon.
Alors, c'est, là aussi, c'est pas récent. Ça s'appelle « Une année à la campagne ». Et c'est écrit par une documentaliste américaine, Sue Hubel, H-U-B-E-2-L. Alors, voilà une femme qui était biologiste à l'université avec son mari. Ils ont eu une belle carrière et un beau jour, ils ont trouvé qu'ils avaient fait le tour du problème et qu'ils voulaient changer de vie. Donc, ils ont acheté des terres dans les monts Ozarks, c'est au sud du Missouri. Et ils se sont installés comme éleveurs d'abeilles. Alors naturellement, ça représente beaucoup, 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 beaucoup d'erreurs, de piqûres, de méfiance des voisins. Le premier voisin est à 10 km, faut pas se rater. Et puis le mari en a eu marre, il est parti et elle s'est retrouvée toute seule à la tête de son élevage d'abeilles. Sur 30 hectares. Et elle a commencé par faire comme toutes les femmes divorcées qu'on a plaquées, c'est-à-dire qu'elle dormait plus, elle pleurait tout le temps, elle faisait des choix qui la mettaient dans des situations financières catastrophiques. Elle avait un fils qui était encore adolescent, qui est parti faire ses études. Donc, du coup, elle s'est retrouvée toute seule. Enfin, bon. Et puis, un beau jour, elle a tapé du pied et... Elle a décidé que la vie valait le coup d'être vécue. Elle est d'un humour absolument extraordinaire. Et elle a un don, cette femme, c'est qu'elle voit toujours, toujours, toujours le verre à moitié plein. Donc son fils, entre-temps marié, un jour lui dit « Maman, c'est pas tout ça, il faut que tu racontes ce que tu fais. Tu nous racontes des tas d'histoires, il faut absolument que tu nous fasses vivre les aventures que tu vis. » Donc, elle décide de s'y mettre et elle écrit « Une année à la campagne », c'est-à-dire par saison. Elle commence à la fin du printemps et elle se retrouve la fin du livre au début du printemps suivant. C'est un délice, un délice. Ça pourrait être ennuyeux, ça pourrait être... casse-pied, si on n'aime pas la nature, peut-être mieux pas, mais en même temps,
qui n'aime pas
chaque rencontre, chaque commentaire est tellement au coin de l'humour qu'on ne peut pas s'empêcher de rire. Alors je vais vous lire une aventure, parce qu'une parmi tant d'autres. Hein. Comme les poules sont par nature incapables d'élever leurs propres poussins, peu m'importe que les œufs soient fécondés ou pas, et en réalité, je n'ai pas besoin d'un coq. Mais j'aime bien en avoir un. Le voir battre des ailes, l'entendre coquériquer son exubérante virilité. Et j'imagine qu'il est plus sain pour les poules d'avoir un coq parmi elles. J'étais très contente donc de voir apparaître un nouveau cochet au printemps dernier, car le vieux coq régnant sur le poulailler avait bien besoin d'une leçon que seul pouvait lui administrer un jeune coq. Le vieux coq était un magnifique New Hampshire rouge, deux fois plus gros que les poules des Gornes. Ses plumes ont de chatoyants reflets rouges, marron, orange, et sa queue, qui n'est quand même pas aussi belle qu'il le croit, s'arrondit avec ostentation au-dessus de son dos en une riche symphonie de couleurs vert cuivré. Son prédécesseur était un aimable légorne qui, par une journée d'été où la sécheresse avait durement éprouvé les animaux sauvages et réduit leurs sources de nourriture, fut emportée par un coyote femelle, longiligne, maigre et affamée. Elle avait choisi son moment avec soin, attendant que les chiens soient allés se promener le long de la rivière avant de frapper. Je la vis, mais il était trop tard. Je lui courus après, mais elle me jeta un regard dédaigneux par-dessus son épaule, le coq pendant entre ses mâchoires, et elle s'enfuit d'un trot élastique, disparaissant en direction de la crique où j'entends parfois les coyotes chasser la nuit. Mes poules furent privées de coq durant un certain temps, jusqu'à ce que je fasse la connaissance d'un couple sur la colline d'en face, qui possédait deux coqs et une seule poule extrêmement fatiguée, tous les trois des New Hampshire rouges. Nous fîmes un échange, une de mes poules pondeuses contre le coq superflu. Il est beau, mais très méchant, peut-être parce qu'il a été le coq numéro 2 dans le triangle, peut-être simplement parce qu'il appartient à une race agressive. Lorsque je l'ai ramené à la maison, il est sorti en trompe du sac de toile et a commencé aussitôt à faire la loi parmi les poules. Il aime les avoir toutes en vue et les pourchasse à coups de bec lorsqu'elles s'éloignent trop du poulailler, perpétuellement réprobateur et agité et débordant de suffisance. C'est délicieux, je trouve. Il y a de tout. Il y a le serpent noir ratier qu'elle a sorti alors qu'il venait d'avaler des œufs de vanneau. Elle l'a secoué, elle l'a attrapé, elle l'a secoué jusqu'à ce que les œufs dégringolent par terre. Et elle les a consciencieusement essuyés, elle les a remis dans le nid. Alors, les vanneaux un peu gênés, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est bon. Et alors, tout du long de ce livre, vous avez des portraits de gens aussi. Les gens du coin, au début, qui lui font un peu la tête, sont absolument adorables avec elle. Il y a en particulier un mécanicien chez qui elle vient se fournir en pièces détachées pour son vieux tracteur, parce que c'est elle qui répare le tracteur, bien entendu, donc elle a appris. Et le mécanicien s'ennuie. Donc, il attend avec impatience, sans vouloir le faire remarquer, il attend sa visite avec impatience. Donc, elle arrive à 9h le matin et elle obtient difficilement l'objet qu'elle est venue chercher le soir sur le coup de 6h, après avoir tapé la cloche. Enfin bon, voilà. Et alors, ce livre est préfacé par un homme que j'aime beaucoup, dont je lis à peu près tous les livres, qui est Jean-Marie Le Clésiot. Alors, ça va être peut-être un petit peu long, mais ça vaut quand même le coup.
Allez, on y va, on a le temps.
Le journal de Sue est belle et tout le temps merveilleux. Son savoir, la beauté de son écriture, sa malice rendent parfaitement intelligible la simple leçon qu'elle nous propose. Non pas avec de grandes idées ni avec de grands mots, mais en nous montrant toutes les formes de la vie autour d'elle. Le passage des oiseaux innombrables et familiers, les bruants indigo, les oiseaux satins, les vanneaux, les jaseurs, les mésanges et parfois, perdus, une de ces mouettes dont les Indiens Shoshone utilisaient les plumes comme emblème sacré. Les oiseaux migrateurs posent des questions à propos de leur sens de l'orientation, peut-être lié à leur faculté d'entendre le bruit des montagnes et de l'océan. Si ces questions restent sans réponse, c'est qu'ils vivent dans une autre dimension. C'est ce que nous vivons dans un monde plus étrange que nous ne pouvons le concevoir. Grâce à Sue Ebel, nous partageons ce vertige. Les milliers de dieux autour d'elle, qui l'observent avec une attention non moins grande que la sienne, et la présence de ces millions de petits corps sous la terre, les vrais propriétaires de son domaine. Sue Ebel reprend la route des grands entomologistes du siècle dernier, Fabre, Maeterlinck ou le révérend McCook. Mais elle ajoute au savoir et à l'observation une qualité humaine qui est au-delà de la science et qui en est, pourrait-on dire, la transcendance. Ce monde qui vit et frémit autour d'elle, avec toute sa peur et tous ses désirs, elle n'en est même pas encore exclue. Chaque moment de la vie sur ce territoire la concerne, touche en elle la mémoire, la douleur, la passion. Lorsqu'elle entend le chant des rainettes, ou lorsqu'elle observe le vol nuptial de la reine des abeilles, lorsqu'elle devine l'angoisse de la mère du jeune faon débusqué par ses chiens, cela réveille en elle l'amour perdu et l'instinct maternel qui l'a habité autrefois, ce sentiment violent, sauvage, qui faisait d'elle une mère ours. À quoi peut servir une vieille femme quand pour elle est passée la saison de construire un nid, demande Sue Ebel. Mais son livre est tout entier une réponse à cette question, aux milliers de questions de la vie. J'ai souvent rêvé d'un livre complet, Sue Ebel me l'a donné.
Bel hommage.
Oui,
superbe hommage. Ah. J'ai dû le lire au moins 5 fois.
Ah ouais.
Franchement, c'est un bonheur. Ça remonte le moral.
Bon, rappelle-nous le titre.
Alors, ça s'appelle Une année à la campagne. L'auteur est Sue Ebel, U-H-U-B-E-L, et c'est chez Folio.
Merci.
Voilà. Et c'est traduit de l'anglais par Janine Hérisson.
Oui, c'est vrai qu'on cite peu les traducteurs, mais...
Oui, puis je trouve que c'est très
important. Ah oui, voilà, fois, exactement. Ça... Ouais. François.
Je l'ai pas dit.
François va casser l'ambiance.
Oh là là.
Mais ça veut dire que c'est un livre qu'on ne va pas pouvoir emporter à la plage?
C'est un livre qu'on peut emporter à la plage, mais...
Il faut cacher la couverture.
Il faut cacher la couverture.
Il vaut mieux pas aller du côté de chez Brigitte Bardot.
Oui.
C'est ça.
Non, en fait, je vais vous présenter Le goût de la viande de Gildas Guyot aux éditions Inuit. Le goût de la viande, c'est l'histoire d'un poilu de 14. On va commencer par son passage dans les tranchées et on le suit jusqu'à la fin de sa vie. Et bon, pour mettre dans l'ambiance, je vais commencer par lire juste le premier petit paragraphe qui permet de voir donc où on se situe. Un étrange magma remplissait mon gosier. Rien de ce que j'avais pu avaler jusqu'alors de ce que je pouvais ingurgiter par la suite n'égalait cette chose-là. C'était âcre et froid, métallique, trop salé, avec une pointe d'acidité, liquide mais pas assez, trop épais en fait pour glisser sur ma langue jusqu'au seuil de mon œsophage en l'absence des papilles, où l'absence de papilles aurait pu me libérer. Si ce n'était pas sa consistance, au moins de son goût. C'était une chape grumeleuse et dégueulasse qui tapissait le moindre recoin de ma cavité buccale et comblait chacune des interstices de ma denture. Je n'en étais pas encore vraiment conscient, mais c'était le sang mêlé de mes frères d'armes. Voilà. Bon. Tout ça pour mettre en place le fait de la difficulté d'être dans les tranchées, la dureté de ce qu'on y vit, et après le désir de ce personnage de mourir, voilà, pour échapper à cette condition, parce que là je passe beaucoup de choses, mais bon, les obus qui tombent, les copains qui meurent, le manque de ravitaillement qui conduit à manger des rats et ainsi de suite. Et alors, je vais vous relire un autre passage. J'attendais, interdit, qu'un peu de métal létal veuille bien s'enfoncer dans mes chairs. N'importe où, pourvu que ça se termine. Je ne bougeais plus, je n'avais plus la force de rien. Ou les Boches étaient de déplorables tireurs, ou ils se foutaient ouvertement de ma gueule. Pour finir, comme la dernière provocation d'une grande carnassière qui joue avec ses proies tout en sachant déjà qu'elle n'a plus faim, c'est arrivé. Au comble du paroxysme d'un naufrage programmé, à mes pieds ou presque, l'espace d'un instant, cette terre meurtrie se fit hospitalière et accueillit en son sein un obus, un 77 mm, dont elle allait digérer le cuivre rutilant tout doucement, trop doucement, comme pour me faire bien comprendre que mon heure n'était pas venue, qu'elle ne viendrait pas. J'assistais impuissant à l'odieux spectacle de cette étreinte silencieuse. Je passe quelques lignes. Je n'étais ni une veuve ni un orphelin. Je ne demandais ni grâce ni pitié. Je voulais simplement qu'on me bousille. Je vous avais dit que ce serait
assez fort. Hein.
Okay. Oui, il n'y a pas de problème.
Alors, ce livre est dur. Mmh. Il est très dur, mais c'est une écriture merveilleuse. C'est vraiment... voilà. Donc, pour la plage, je ne le conseille pas forcément pour les moments de la plage, mais le soir, en rentrant, avant de faire des cauchemars.
D'accord.
Voilà. Donc, cet homme qui souhaite la mort finit par être blessé. Il perd un bras. Donc, il est renvoyé à l'arrière, soigné, et puis la fin de la guerre arrive. Il finit par rentrer chez lui. Mais toute sa vie, il est poursuivi par le fait qu'il ait survécu. Pour lui, c'est complètement immérité, c'est complètement anormal. Tous ses copains, tout le monde mourait autour de lui, et il ne supporte pas de continuer à vivre. Ce qui l'amène à pas devenir forcément quelqu'un de sympathique. Quelqu'un qui, je passe bien des vicissitudes, hein, parce que on va pas... Mais qui, arrivé à la guerre 39-45, accueille des Allemands chez lui, les choix, leur fait la cuisine, leur dénonce ses voisins, gentiment.
Avec l'intention de faire arrêter la guerre ?
Avec l'intention, pas forcément de faire arrêter la guerre, mais je crois qu'il est aussi dans un principe de dégoût de soi et d'autodestruction. Donc il va vers...
La cata,
vers le pire.
Il va vers le pire, voilà. Donc cet homme fait quelques héritages et il achète une belle maison en bordure de mer après s'être marié, enfin, et ainsi de suite. Et il se reconvertit dans le métier de croque-mort. Et il petit à petit sombre dans une folie et il veut toujours fréquenter les cadavres. Voilà.
Donc on suit son parcours jusqu'à...
On suit son parcours jusqu'à sa mort. Alors,
enfin. Ne dévoile pas la fin. Hein.
Enfin.
Voilà. Ne dévoile pas
si
la fin.
Je ne dévoile pas la fin, oui. Il vaut mieux pas.
Ouais, ouais.
Bon. Où on voit, il s'enfonce petit à petit dans la folie complète.
Voilà. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu ressortir intacts. Hein, de...
bah, oui.
Presque tous.
Comment,
hein.
Comment,
presque
comment
tous. Là, là en fait, c'est une autodestruction toute sa vie.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, je ne dévoile pas la fin, mais tout le monde finit par mourir.
Donc, c'est Le goût de la viande.
C'est Le goût de la viande par Gildas Guyot, édition Inuit. Alors, c'est un livre difficile. Qui marque, mais c'est vraiment une belle écriture et une histoire passionnante.
Merci François. Alors Anne, il nous reste encore un peu de temps pour évoquer ton dernier choix.
Oui.
Un gros pavé hein, celui-là. Hein.
Oui, alors c'est gros, mais c'est tellement, tellement foisonnant que c'est magnifique. Alors c'est L'été des quatre rois de Camille Pascal. Ça a obtenu le grand prix du roman de l'Académie française l'année dernière. Et c'est l'histoire des Trois Glorieuses, le passage du témoin entre Charles X et une dynastie complètement finie, décadente, épuisée, blanche, et Louis-Philippe qui arrive avec l'intention de tout changer parce qu'il est le meilleur, il est le plus beau. Entre les deux, il y a la révolution soulevée par Lafayette et par la bourgeoisie libérale qui craint parce que le roi a accepté de signer des ordonnances qui vont annuler toutes les mesures libérales prises par son frère Louis XVIII et la fameuse charte signée dans les années 1819. Et donc, le roi veut signer les papiers. Son premier ministre lui dit « Ne vous inquiétez pas, la Vierge Marie m'a dit que c'était une bonne chose, donc vous pouvez signer les yeux fermés. » Et ça se passe au château de Saint-Cloud. À Paris, les rues sont dépavées. Les ouvriers commencent à hurler pour faire partir ces Bourbons qui décidément ne comprennent rien à rien et ne veulent pas se rapprocher du peuple. Lafayette, lui, est persuadé qu'on va faire de lui le lieutenant général du royaume. C'est son rêve le plus fort. Et... le duc d'Orléans, magnifique de duplicité, d'intelligence politique, qui fraye avec Casimir Perrier, avec... enfin bref. Alors, ça se passe en 2 mois, même pas 6 semaines. 20 juillet, 19 août ou 20 août. Et le livre est raconté... En prenant une date et en plaçant les personnages chacun à sa place à cette date-là. Alors nous avons une partie au château de Saint-Cloud, ça c'est le roi, une partie au château de Neuilly, ça c'est le duc d'Orléans et sa famille, une partie à Paris même, dans les rues, ça c'est le peuple, une partie dans le salon de Madame de Boigne qui est une aristocrate qui a un sens politique très poussé, une intelligence brillante et qui a toujours voulu avoir un salon qui rassemble toutes les politiques au pluriel, et Rambouillet qui est l'endroit où le roi chasse. Et nous retrouvons ces endroits à chaque fois, chaque jour, pendant ces 6 semaines. C'est foisonnant d'informations. Je ne sais pas le temps qu'elle a mis pour faire ses recherches, mais c'est impressionnant de précision, d'atmosphère extrêmement bien rendue. Et c'est là qu'on se rend compte que ce pauvre Charles X n'avait vraiment rien compris, mais vraiment rien à rien. Tout ce qu'il voyait, c'est que il avait été sacré à Reims avec ce qui restait de l'huile sainte dans l'ampoule qui avait été brisée en 93. Et parce qu'il avait été sacré à Reims, il fallait qu'il reprenne la pompe de Louis XIV. En gros, c'est ça. Donc, ça va jusqu'au ridicule total. Par exemple, au moment où vraiment, ça y est, ils sont obligés de partir, de quitter Rambouillet. C'est un convoi funèbre avec chacun dans les voitures pour rejoindre la mer et prendre le bateau pour l'Angleterre. Alors, il exige d'être en queue de peloton parce que le roi doit toujours être le dernier. D'avoir une voiture à 8 chevaux parce qu'il est le seul qui a le droit d'être dans une voiture à 8 chevaux. Le général Marmont n'est pas autorisé à monter dans la voiture, bien qu'il pleuve, comme c'est pas possible, parce que le général Marmont est un général d'Empire, il ne fait donc pas partie des émigrés, donc il a tout juste le droit de se tenir à la portière, n'est-ce pas, hein, avec toutes les blessures qu'il a pu avoir sous l'Empire. Enfin, tout est à l'avenant, c'est extrêmement bien rendu, chaque personnage est parfaitement situé. Et alors, chose étonnante, ça m'a permis quand même de voir les choses différemment. Il y en a une qui vraiment se fait, vulgairement parlant, tailler un short, c'est la femme du duc d'Orléans, Marie-Amélie, qui est toujours dans tous les livres d'histoire représentée comme une sainte qui a fait 12 enfants à son mari, qui suit toujours tout ce qu'il dit, qui, bien que Bourbon, réel Bourbon de la branche aînée, descendant des Bourbons Sicile, a toujours marché 3 pas derrière son mari en considérant... Bon. Et là, elle est représentée comme un monstre de duplicité pour faire pousser son mari au titre de roi qui doit absolument lui revenir et pousser ses enfants qui doivent devenir les rejetons royaux, etc. C'est étonnant, étonnant. Ce pauvre Charles X, il ferait pitié.
Et si on n'est pas très, très bien documenté sur la période, est-ce que c'est quelque chose
assez lisible.
Ouais, c'est lisible quand
c'est
même.
C'est lisible. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a des... Il y a des poèmes, enfin le dictionnaire pour ça existe, hein,
mais
franchement c'est lisible.
Ouais, d'accord.
Et puis c'est extrêmement bien écrit. Et cette Madame de Boine qui papillonne au milieu de tous ces c'est très très chouette. Ça donne envie de lire les mémoires de Madame de Boine qui sont excellents. Excellents. Voilà, alors ça s'appelle « L'été des quatre rois ». Je ne suis pas la seule à avoir trouvé ce livre passionnant. J'ai deux de mes amis à qui je l'avais recommandé qui m'ont téléphoné pour me remercier. C'est de Camille Pascal et c'est chez Plon. C'est un énorme bouquin, mais c'est le pavé parfait pour passer l'été superbement.
Ils ont leur dose de pavé. Là.
Ah oui, je pense que là, c'est bon. Hein.
En attendant d'avoir le prix au rendez-vous de l'histoire, parce qu'il est bien placé.
D'accord.
Voilà.
Okay, encore une information. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir participé à la dernière émission du Vent dans les Pages. Je vous remercie d'avoir participé aux autres aussi, d'avoir toujours été fidèles.
C'était un plaisir.
En tout cas, toutes les émissions de Du Vent dans les Pages sont podcastables sur studiozef.fr. Je vous souhaite aussi un très, très bel été. Et je vous dis à très bientôt à la radio.
Au revoir.
Au revoir à tous.